La joie ce soir d'accueillir Guy Teller qui va venir tout à l'heure. Il va se présenter, mais moi j'avais juste une petite anecdote ou un petit témoignage par rapport à Guy. Il ne sait pas. Mais donc Guy Teller travaille pour Jeunesse en Mission, si je ne me trompe pas, c'est bien juste. Pendant plusieurs années, sa femme et lui ont été responsables des camps de Pâques qui ont eu lieu pendant toute une période dans toute la Suisse romande. Et mes enfants ont eu le privilège de suivre plusieurs de ces camps. Et une année, sauf erreur, c'était à Tavannes, en 2001. Il me semble que c'était à Tavannes. Mais je me souviens très bien que, donc, on amenait nos enfants, on les laissait là-bas toute la semaine, puis ensuite on venait les rechercher à la fin du camp, une semaine après. Et je me souviens très bien que quand on est arrivé là-bas, donc il y avait tous les parents des enfants qui étaient là. Et il y a eu un temps de louange et puis un petit résumé de ce qui s'était passé pendant la semaine. Et Guy nous avait dit, si vos enfants rentrent à la maison et vous disent, papa, maman, cet été, je veux faire une tournée avec les fabricants de joie, surtout, ne leur dites pas non. Alors bon, ben voilà, moi j'ai entendu ça et tout. On rentre dans la voiture et Benjamin, il nous dit, je veux faire un camp avec les fabricants de joie cet été, je vais aller au Canada. Alors moi, j'ai avalé, j'ai rien dit, parce que c'était, ben voilà, ça, je me rappelle qu'à l'époque, ça coûtait 800 francs pour faire c'était 3 semaines au Canada, et puis pour nous, c'était juste impossible, et j'ai rien dit, rien du tout, et Benjamin, suite à ça, il était déterminé, hein, il voulait aller là-bas, pendant toute une période, il allait nettoyer les voitures sur le parking de la COP devant chez nous, avec son seau, son éponge et tout. Il a pu nettoyer les voitures de certains d'entre vous. Je ne sais pas si ceux qui sont là, il y en a qui se rappellent, mais je me rappelle très bien qu'il avait nettoyé des voitures des gens de la paroisse. On a fait 2 ventes de pâtisserie ici à la paroisse d'Aunay. Et il avait aussi participé à une course relais. Ils avaient dû être sponsorisés pour un certain nombre de kilomètres. On l'avait amené à Yverdon. Il s'était défoncé pendant cette course. Il avait couru vraiment fort et il avait récolté plein d'argent. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il avait pu faire sa tournée, qu'en 2001, il est parti à Montréal pour 3 semaines et qu'on avait juste eu besoin de lui donner son argent de poche. Donc, je vous invite vraiment à être attentif à ce que Guy va dire ce soir et à ne pas vous dire « Oh, c'est impossible !» Parce que, voilà, nous, on l'a vécu et puis je vous invite à vraiment prêter attention à ce qu'il va nous dire. Merci, Guy.
Merci beaucoup, Catherine. Tu rappelles des vieux souvenirs, mais des bons souvenirs. C'est vrai qu'on avait fait ces camps de Pâques un peu partout en Suisse romande. Puis chaque année, ça grandissait. Mais le Seigneur disait, ne rejetez pas ceux qui viennent à moi. Donc on a fini dans la caserne de Bure, au Jura. C'était le dernier canton qu'on allait faire. Et on avait, je crois qu'on avait 800 participants. Donc voilà, on avait bien du monde pour s'en occuper aussi. Hein. Donc on n'a pas été tout seul pour vivre cette période. On avait une équipe juste fantastique. Donc je m'appelle Guy Teller, c'est un plaisir pour moi d'être ici dans votre paroisse. Je crois que c'est la première fois que je viens ici, j'ai été beaucoup dans d'autres paroisses des églises libres de la région, mais ça me fait très plaisir de faire votre connaissance, même si le groupe est un peu diminué par les circonstances. Je suis marié à Joël depuis 28 ans, nous avons 5 enfants, et je suis grand-père pour la première fois depuis quelques mois, et c'est trop génial. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes âgées au milieu de nous, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Je vais vous parler de la famille, c'est le thème qui m'a été demandé, je crois que c'est une série dans laquelle vous êtes, et puis c'est un sujet qui me passionne, mais qui ne m'a pas toujours passionné, parce que moi je ne viens pas d'une famille chrétienne à la base, je me suis converti quand j'avais 18 ans, ma maman s'est convertie juste avant moi, tout ça par un apprenti de mon père qui était agriculteur, qui est venu vivre chez nous, puis qui était un jeune salutiste et qui a prié pour notre famille. Il avait 16 ans. Et puis, il a commencé à témoigner, il a commencé à nous inviter à l'église, j'ai commencé à aller faire du foot avec l'armée du salut à Orbe. Et petit à petit, ben voilà, toute la famille est convertie maintenant, au travers d'un jeune de 16 ans. Donc, c'est pour ça que je crois à la capacité de la jeunesse pour pouvoir amener le royaume de Dieu autour de nous. Je vais vous parler de la famille, certainement d'une manière un petit peu inhabituelle. C'est vrai qu'on a eu tout un parcours au niveau de la famille qui nous a amené à comprendre quelle est la vision de Dieu pour la famille ? Pour moi, c'était nouveau. Et déjà, quand j'étais instituteur,
Moi, j'avais envie d'annoncer l'évangile aux enfants, donc j'ai fait plein de bêtises à l'école. On a prié pour les malades, on a fait plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je me suis fait taper sur les doigts par mon directeur, par les parents, par le directeur du département scolaire du canton de Vaud. Puis bon, j'ai appris en faisant, mais en même temps, on a vu des choses juste fantastiques. Et c'est en faisant beaucoup d'erreurs que j'ai appris ces choses-là dont je vais vous parler ce soir. On n'a pas le temps d'aller très en profondeur, mais je vais vous donner une introduction. J'ai pris quelques livres avec moi sur différents aspects que j'ai partagés. Si votre souci, c'est comment j'amène la parole de Dieu et l'amour pour la parole de Dieu aux enfants, j'ai un livre, Passion pour la Bible, qui est à ce niveau-là. Si votre cœur, c'est la présence de Dieu, comment on peut amener la présence de Dieu aux enfants, j'ai un livre sur la présence de Dieu. Parce que c'est mes deux passions, la parole et la présence de Dieu. Et puis, Une vision pour les enfants dans l'Église, c'est mon plus vieux livre, un petit peu comment on a changé dans notre Église le ministère auprès des enfants. Et Une vision pour la famille, ce que je vais vous partager ce soir comme introduction. On était responsable des enfants dans notre Église à Yverdon. Et puis, on a commencé, après une année, à vraiment voir le Saint-Esprit agir au niveau des enfants. On commençait à avoir des guérisons, des baptêmes de l'Esprit, des enfants qui se convertissaient. Ça devenait normal dans nos rencontres du dimanche matin. Et puis, à un moment donné, on a été interpellé par le peu de réactivité de la part des parents. On disait aux enfants, mais ce que vous vivez, c'est génial, partagez à vos parents, et puis continuez à le vivre pendant la semaine à la maison. Puis le dimanche suivant, les enfants revenaient, puis ils disaient, bon, tu sais, nos parents, ils s'en fichent un petit peu de ce qu'on fait là, ils ne nous posent pas de questions, puis si on veut raconter, ben, ils ne s'intéressent pas vraiment. Alors on s'est dit, on va faire une soirée pour les parents. Et on a invité tous les parents de l'église. Potentiellement, on aurait pu avoir 150, 200 parents qui étaient là, parce qu'on avait 200 enfants rien qu'inscrits dans notre école du dimanche. Et puis, on a fait notre soirée, on s'est préparé, et on a eu 9 personnes qui sont venues. On a eu moi, ma femme, 3 personnes convaincues, et nos 2 pasteurs. Puis on s'est dit, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Et en grattant un tout petit peu, on a réalisé que la mentalité sous-jacente dans l'Église était la suivante. C'est comme si les parents nous disaient, mais en fait, peu importe ce que vous faites avec nos gamins le dimanche matin, tant qu'ils sont pris en charge. Et quand on a pris conscience de ça, on s'est dit, mais Seigneur, on est en train de faire fausse route. Parce que dans la Bible, le modèle que le Seigneur nous donne, c'est pas que les enfants soient pris à part et puis qu'il y ait des spécialistes qui les enseignent. Le modèle que Dieu a donné, c'est Deutéronome 6. Les versets 6 et 7, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants, quand ça? Le dimanche matin ou le samedi pour l'époque? Non. Quand tu t'assieds dans ta maison, quand tu marches le long du chemin, quand tu te lèves, quand tu te couches, c'est-à-dire dans le contexte de la vie de tous les jours. La formation de disciples dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui se passe dans le contexte du quotidien. Ce n'est pas juste une heure par semaine. Des gens, un ministère parmi les enfants a calculé que sur la semaine, je crois qu'il y a 152 heures. Une heure sur 152, ce n'est pas assez pour faire des disciples. Jésus, il vivait avec ses disciples. Et c'est ce qui lui donnait une autorité pour vraiment investir dans leur vie. Et donc, la responsabilité première pour faire des disciples, elle est confiée aux parents. Et l'Église, l'école du dimanche, c'est un soutien. Et l'idéal, c'est de créer une synergie entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au sein de l'église locale. En passant, la meilleure stratégie de synergie que j'ai vue, c'est dans l'église adventiste. Parce qu'ils ont un programme où tous les matins, ou tous les jours, disons, ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée, les parents prennent un moment biblique avec leurs enfants, tout est préparé. Et puis le samedi matin, vu qu'ils ont leur culte le samedi, à l'école du sabbat, eh bien, les moniteurs nouent la gerbe et ils tirent des conclusions de ce qui a été investi par les parents pendant la semaine. Et je me suis dit, waouh, alors là, on est vraiment fidèle à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et il y a cette attitude un petit peu de démission ou de s'appuyer ou de se reposer sur l'école du dimanche pour que les choses se passent. Même nous, des fois, les parents venaient, ils nous larguaient les enfants à l'entrée puis ils repartaient sans nous parler. Et quand ils nous parlaient, des fois, c'était pour nous dire « Bon, on vous les confie, on espère que vous arriverez à faire quelque chose. Hein. » Mais bien sûr qu'on a besoin de l'aide et du soutien de ministères spécialisés. Mais on doit aussi travailler à revenir à la vision initiale, au plan premier de Dieu, qui était de passer par la famille. Et pour ça, on a besoin de comprendre quelle est la vision de Dieu pour la famille. Et moi, j'avais aucune idée. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand j'ai réalisé la déconnexion qu'on avait entre l'église du dimanche puis l'église de la semaine, parce que c'est l'église, on est l'église 24 heures sur 24, c'est pas un événement l'église, c'est pas une réunion, c'est pas un bâtiment. On est l'église, des fois rassemblée, des fois dispersée, mais à la maison, c'est l'église qui continue. Et j'ai réalisé que ça, mais on ne savait pas comment le vivre. Et puis j'ai commencé à creuser la parole de Dieu pour me dire, Seigneur, c'était quoi ton plan pour la famille finalement? Pourquoi t'as créé la famille? Quelle était ton idée de base? Et puis j'ai commencé à me plonger dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en notant tout ce que je pouvais sur la famille. Et j'y suis allé de révélation en révélation. Comme je vous le disais, je ne viens pas d'une famille chrétienne, c'était des choses nouvelles pour moi. Je n'avais pas non plus de parti pris. En disant j'ai été élevé entre deux pages de Bible, mais il y avait du légalisme, il y avait toutes sortes de choses qui m'ont dégoûté. Je n'avais pas ça non plus. Donc je suis arrivé devant la parole de Dieu avec un regard neutre. Un des textes qui m'a le plus impacté, c'est dans Luc 19, c'est l'histoire de Zachée. Vous vous souvenez l'histoire de Zachée, hein, on la raconte en tout cas 50 fois à l'école du dimanche. C'est ce petit collecteur d'impôts, collaborateur des Romains, qui prend l'argent des Juifs pour le donner aux ennemis. Un jour, il apprend que Jésus vient dans sa ville, à Jéricho. Et puis quand Jésus vient, tout le monde est excité, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer quand Jésus est là. Il y aura peut-être des miracles, il va peut-être dire des choses extraordinaires. On ne veut pas passer à côté, il va y avoir de l'action. Donc tout le monde s'est rassemblé au bord de la rue pour attendre Jésus. Et Zachée, qui était petit, ben, il était derrière tout le monde finalement, il ne voyait rien. Il est monté sur un arbre, en sycomore, puis il a attendu la venue de Jésus. Et Jésus est arrivé. Il avançait, il y avait la foule qui était enthousiaste, et il s'est arrêté juste en dessous de l'arbre où se trouvait Zachée. Et imaginez, tout le monde devait regarder dans sa direction. Et lui, qui préfère passer inaperçu, tout le monde le regarde. Et Jésus lève la tête et le regarde aussi. Et voilà ce qu'il lui dit. Et ses paroles ont changé ma vie, changé ma compréhension de la famille. « Zachée, hâte-toi de descendre !» Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. J'étais en train d'étudier la famille dans la Bible. Et j'ai réalisé que dans la Bible, le mot pour parler de la famille, c'est baït en hébreu ou oikos en grec. Et ça veut dire maison. Et c'est le même mot pour parler du bâtiment que de la famille ou de la personne qui vit dans ce bâtiment. Alors, d'une certaine manière, pour Zachée, on a décidé que Jésus parlait de son bâtiment. Et là, le Saint-Esprit m'a chuchoté, il m'a dit, mais et si Jésus s'invitait dans la famille de Zachée? Et si Jésus disait, Zachée, aujourd'hui, il faut que je vienne dans ta famille? On ne sait pas s'il était marié, la Bible ne le dit pas. C'était le cas de la plupart des gens à l'époque, mais on n'a pas de détails là-dessus. Toujours est-il que j'ai pris conscience que nos églises, elles fonctionnent souvent comme l'arbre de Zachée. On monte dessus une fois par semaine, deux fois par semaine, puis on a une attente, Jésus va passer. Il va peut-être dire des choses extraordinaires ou il va faire un miracle. Puis après, Jésus poursuit son chemin, on descend de l'arbre et la vie continue. En fait, la rencontre de Jésus, c'est un event, c'est un événement, c'est un moment. Alors que Jésus dit, hé, descends de ton arbre, arrête de fonctionner de réunion en réunion. Aujourd'hui, il faut que je vienne dans ta famille. Et il faut que ta famille devienne une église pour moi, où je veux venir habiter, je veux mettre ma gloire dans ta famille. Alors je pourrais vous donner des tonnes de versets et de passages qui sont tous dans le bouquin, si jamais. Bon, j'en ai quand il faudra vous ruer dessus, hein, si ça vous intéresse. Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, il faut que j'habite dans ta maison. Et j'ai réalisé que dans notre christianisme, on a développé une tendance à avoir un christianisme à deux vitesses ou à deux visages. Une forme de dichotomie. Il y a le christianisme du dimanche. À l'époque, on parlait même, il faut mettre ses habits du dimanche, parce qu'on veut montrer le meilleur. Puis il y a le christianisme de la vie de tous les jours, qui peut être parfois assez éloigné. Et j'ai pris conscience de ça dans un camp FJ, un fabricant de joie qu'on avait à Paris, pour des ados. Et il y avait une jeune adolescente qui était vraiment, comment dire, elle était en colère, elle était en rébellion. Et puis je me suis assis avec elle pour parler, puis essayer de comprendre d'où venait sa colère. Puis elle était en colère contre Dieu, puis elle était en colère contre moi. Puis en fait, elle était en colère contre son père. Elle me dit, tu sais, mon père, il est pasteur. Puis il nous parle tout le temps de Dieu. C'est le premier à l'église le dimanche, c'est le dernier à partir. Il est tout gentil avec tout le monde, il prie pour tous les problèmes des gens, il écoute tout le monde. Mais à peine on rentre à la maison, il fait que de nous crier dessus, ma mère et moi, il nous frappe régulièrement. Alors si c'est ça le Dieu dont tu parles, moi j'en veux pas. Et là je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui parle le plus à cette fille? Les beaux messages de son père à l'église avec son beau costume et sa voix mielleuse? Ou bien son attitude et son vécu dans la vie de tous les jours? Et là, Dieu a commencé à me travailler. Et j'ai commencé à réaliser que des fois, dans nos églises, on développe une culture de façade. On avait un couple qui nous conduisait dans la louange, puis tous les dimanches matins, c'était « Alléluia, Alléluia !» Alors il y avait toute la panoplie du conducteur de louange évangélique, les yeux plissés, les sourcils froncés. On se dit « ça, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de fort avec le Seigneur !» Mais tout d'un coup, un dimanche, on apprend qu'en fait, le couple se sépare et que lui frappe sa femme depuis des mois. On a développé une culture où on montre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et ça, les amis, on ne va pas préparer la prochaine génération comme ça. On va la dégoûter. On va la faire fuir. Parce qu'on leur montre une forme d'hypocrisie qu'ils n'arrivent pas à supporter. Et la jeune génération d'aujourd'hui ne peut pas croire à un Dieu qui n'est pas le Dieu de toute notre vie. Ou qui n'est pas le même dans toute notre vie. Je suis allé au sud de la France et j'ai prêché ce message. C'était la première fois que je le prêchais. Je ne vous dirai pas où. Mais je suis arrivé là-bas. Et puis, vous savez, quand on prêche un message pour la première fois, des fois, il est un peu brut. Comment dire, les angles ne sont pas encore très arrondis. Donc, j'ai posé comme ça. Et puis, à la fin du message, je crois qu'il y a eu 15 minutes sans que personne s'approche de moi. Et là, j'étais un peu dans mes petits souliers, parce qu'en général, il y a toujours des gens qui viennent poser des questions, demander la prière, parler. Personne, même le pasteur m'évitait. Puis je me suis dit, « Oh là, Seigneur, si j'ai dit des bêtises, il faut que tu me corriges, là. » Mais finalement, j'ai une dame qui s'est approchée de moi, puis qui m'a dit, « Bonjour, frère. Merci pour votre message ce matin. Vous savez, ça fait 15 ans que je viens dans l'église ici, et c'est la première fois que j'entends parler de la famille. » Puis je la regarde étonnée, je lui dis, « Mais vous ne parlez pas de ce genre de choses, c'est pourtant super important. » Puis il me dit, non, on ne parle pas de ça. Vous savez, chez nous, la famille, ça fait partie de la sphère privée. Puis ça, ça m'a interrogé. Je me dis, la sphère privée, ça veut dire que votre pasteur, il ne parle pas non plus du mensonge ou de l'adultère ou de choses de ce genre-là? Oh oui, il parle de ça, bien sûr. Je dis, mais je m'excuse, c'est super privé aussi. En quoi ça le regarde si je mens ou si je trompe ma femme? Ce que je ne fais pas, hein. Mais tout d'un coup, c'est comme si au niveau individuel, on peut aborder tous les sujets qu'on veut. Mais au niveau famille, il ne faut pas y toucher. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de parler de la famille? Et puis là, j'ai réalisé que c'est difficile parce qu'en fait, la famille, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus difficile d'être chrétien. C'est là où on va vivre nos plus grandes joies, mais c'est aussi là où potentiellement on peut vivre nos plus grandes souffrances. Et puis parler de la famille, c'est s'exposer, c'est se rendre vulnérable, c'est affronter nos difficultés ou nos souffrances les plus personnelles, nos échecs parfois, en tout cas ce qu'on perçoit comme tel. Mais à un moment donné, si on veut inviter Jésus dans notre famille, il faut l'inviter dans la famille comme elle est. On ne veut pas lui donner l'image d'une bonne famille. De toute façon, il voit derrière nos masques et nos façades. Et il faut qu'on arrive à créer un climat d'église où on ose apporter nos vies de famille comme elles sont, aussi en miettes qu'elles puissent être, pour qu'on puisse dire, ben Jésus, apprends-moi, parce que j'arrive pas sans toi. Viens dans ma maison, Jésus, comme Zachée. En fait, dans la Bible, on a un principe que l'autorité et le royaume de Dieu se développent de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence dans nos sphères privées et après, il y a une autorité qui découle de ça puis qui coule sur l'extérieur. Donc Dieu nous invite à commencer dans notre famille. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée, qui est un passage où Paul écrit à son jeune disciple Timothée, qu'il avait laissé derrière lui dans une des villes où il avait implanté une église, et puis il lui avait donné la mission d'établir des anciens et des diacres. Et il lui donne tous les critères avec lesquels il peut choisir un responsable pour une église. Et puis, ces critères, c'est beaucoup de choses qui sont liées au caractère. Hein. Il faut être sobre, il faut être hospitalier, il faut être apte à l'enseignement, il faut être mari d'une seule femme. Ben déjà, quelque chose par rapport à la famille, c'est intéressant. Et tout d'un coup, il nous sort ceci. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous voyez le lien entre public et privé? Alors nous, on est dans une société qui veut nous dire qu'il n'y a pas de lien entre public et privé. Je peux être Bill Clinton, comme à l'époque, qui couche avec une secrétaire dans les couloirs de la Maison-Blanche et qui est choqué qu'on demande sa démission et qui ne voit pas le rapport, qui dit « c'est quoi le rapport ?» entre le fait que je fais dans ma vie privée et ma capacité à diriger une nation. Et on essaie de nous faire croire, dans le monde d'aujourd'hui, que le privé et le public ne sont pas liés. Mais dans le royaume de Dieu, c'est lié. Si ta femme ne peut pas te faire confiance, comment tu veux que ton pays te fasse confiance? Les choses commencent à la maison. Mais pourquoi? Aujourd'hui, quand on choisit un responsable, on va regarder surtout deux aspects. Tout d'abord, on va regarder ses dons. Ah ben, il sait bien enseigner, ou il sait bien faire des visites, il sait bien écouter, il sait bien prier pour les gens, il est formé en relations d'aide. Et puis, on va regarder les diplômes. Ah, il a suivi une école biblique, ou il a suivi cette faculté-là. Et puis, ça, c'est les choses qu'on regarde. Mais à l'époque de Paul, on regardait aussi la vie de famille du leader. On ne fait pas ça aujourd'hui. Pourquoi on faisait ça à l'époque ? Alors, il me faut un volontaire. Est-ce que je peux vous demander de venir ? Imaginons que je suis à l'époque de Paul et qu'on a implanté une église. Et puis voilà qu'on est en train de vivre une vague de réveil et il y a eu 15 conversions, mais on est trois anciens puis on tire la langue parce que, vous savez, les conversions, c'est comme des bébés, il faut pouvoir s'en occuper, il faut pouvoir suivre. Donc on dit, Seigneur, il faut qu'on trouve une nouvelle personne. Comment vous appelez ?
Carlos.
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 Et puis, on a vu Carlos. On a vu Carlos, on a vu comment il est avec sa femme. On a vu qu'il sait prendre soin d'elle, qu'il lui témoigne de l'affection, qu'il l'écoute. On voit qu'il sert aussi dans le cas de la famille. Il ne s'attend pas à ce que ça soit la servante qui fasse tout. Mais on voit aussi qu'en même temps, il donne un cadre. Il prend le leadership dans la famille. Et puis, il ne se laisse pas marcher dessus. Et c'est lui qui conduit. Ça, c'est bien. Donc, on va aller vers lui, et puis on va lui dire, Carlos, tu sais qu'on est en train de prier pour avoir des nouveaux anciens qui viennent nous aider pour l'église, puis on a vu comment tu es avec ton épouse, et on a pensé à toi. Alors on a une proposition pour toi. Comme tu es un si bon mari, est-ce que tu serais prêt à ce qu'on te confie une deuxième épouse? Il ne sait pas quoi répondre, là. Hein? Question piège. T'as tout de suite compris. Hein. De quoi je parle ? Je parle de l'épouse de Jésus. Merci beaucoup, Carlos. J'espère que je ne t'ai pas mis dans l'embarras. Ça va. Parce que, en fait, le principe est le suivant. Si Dieu voit, en tant que mari, que tu sais prendre soin de ton épouse, il n'a aucun problème pour te confier la sienne. Parce que tu as démontré, dans ta réalité de tous les jours, que tu sais prendre soin d'une épouse. Et Dieu cherche des gens qui savent prendre soin de son épouse. Pas juste des gens qui ont des papiers ou des gens qui ont des dons. Parce qu'on peut avoir du charisme, mais si on n'a pas le caractère, on fait des dégâts. Pensez à Saül, qui était un homme plein de charisme. Mais en fait, il a commencé à faire les choses à sa manière et puis il a entraîné la destruction d'Israël dans sa génération. La même chose, si tu es un père qui sait prendre soin de tes enfants, qui joue avec eux, qui rit avec eux, qui parle avec eux, on ne te demande pas d'être un père parfait. On va tous faire des erreurs. Mais un père suffisamment humble, quand tu as fait une erreur, pour retourner vers tes enfants et peut-être leur demander pardon. Et leur dire, tu sais, j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai réagi comme ça. Et je réalise que Dieu n'aurait pas fait comme ça. Et je ne t'ai pas représenté qui est Dieu. Je n'ai pas été l'image du père pour toi. Je te demande pardon. Ça ne vient pas excuser ce que toi t'as fait, mais ça c'est ta responsabilité avec Dieu. Ça c'est la mienne que je prends. On va récolter ce qu'on sème. Si on sème l'humilité, si on sait demander pardon à nos enfants, mais ils n'auront aucun problème à nous demander pardon. Mais si on est le père qui a toujours raison, qui de toute façon aura toujours le dernier mot, et puis même s'il a tort, il a raison, ben nos enfants, ils vont devenir comme ça par rapport à nous. On récolte ce qu'on sème. Alors, commençons par notre propre famille. Le ministère commence à la maison. Et moi, j'ai vu des gens qui viennent vers moi après un message et qui me disent « Oh, Guy Tseller, vous êtes un homme de Dieu, c'est extraordinaire !» Ça me fait toujours rire parce que je sais de quel bois je suis fait. Hein. Là, c'est facile de me dire ça après un message ou après un ménage, comme on a dit tout à l'heure. Catherine priait avant, puis elle disait « C'est super, on a un orateur qui vient faire le ménage, le message. » Et je dis toujours à ces personnes « Vous voulez savoir si je suis un homme de Dieu ? Ben voilà ma femme, voilà mes enfants, vous allez leur demander. » Parce que eux, ils me voient vivre dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est pour ça que la famille est tellement clé dans le royaume de Dieu, pas juste pour les enfants, mais aussi pour les parents. Parce que dans notre famille, c'est là où on ne peut pas se cacher. Ce qu'on est, ça sort de toute façon. À la maison, au travail, on peut porter un masque. En tout cas, jusqu'à un certain point. À l'église, on peut porter un masque. Bonjour frère, ça va ? Oui, ça va. Et la famille, ça va ? Oui, ça va, alléluia, gloire à Dieu. Ça ne va pas du tout. Mais on ne veut pas qu'il soit dit. On ne veut pas que les gens le sachent. L'important, c'est la surface. Non, les amis, si on veut avoir une église qui soit une rampe de lancement et un lieu où la prochaine génération se sente à l'aise, ben, il faut qu'on soit une église authentique. Une église qui admet ses échecs, qui admet ses difficultés, mais qui garde une vision pour la vision de ce que Dieu aimerait faire et qui garde l'espérance que Dieu peut le faire et que Dieu nous utilise malgré nos limitations. Ça, c'est le Dieu qu'on a. Et c'est l'Église dont la prochaine génération a besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait et je veux insister là-dessus. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire qu'il était l'image visible du Dieu invisible. Qui pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais c'est à ça qu'on doit tendre. Et le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas trop bien, pas trop mal à s'en sortir dans leur vie de famille, mais ils peuvent devenir super arrogants. Puis dire « Ah, tu as des problèmes dans ton couple ? » ?»« Bah, fais comme moi, regarde comme nous on a fait, puis en fait tout va bien et tout ça. » Puis on devient un peu comme le pharisien qui loue Dieu qu'il n'est pas comme le reste des hommes. Tellement il a bien réussi. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec des gens comme ça. Même si leur vie de famille, elle semble super. Par contre, il y a des gens, peut-être qu'ils ont vécu un divorce, peut-être qu'ils ont des enfants qui ne sont pas du tout engagés avec Dieu, puis ils sont brisés. Et puis, ils se sentent, comment dire, en échec. Ils se sentent humiliés. Ils portent cette situation. Et la Bible nous dit dans les psaumes que Dieu fait ses délices d'un cœur contrit et brisé. Donc, la famille n'est pas le seul moyen de Dieu pour former des responsables de qualité. Mais c'en est un aussi. Il ne faut pas qu'on soit dans un extrême, il ne faut pas qu'on soit dans l'autre non plus. Dieu nous forme dans nos vies de famille pour l'impact qu'on va avoir à l'extérieur. Mais on doit commencer à la maison. Il y a des gens, ils prophétisent à l'église, tout le temps ils ont une parole pour les autres, et j'ai envie de leur dire, c'est quand la dernière fois que tu as prophétisé sur ta femme et tes enfants ? Ou bien ils sont toujours en train d'écouter les autres qui ont des problèmes. C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour écouter tes enfants, ton adolescent qui passe par une période difficile ? Les dons que Dieu nous donne, ils ne sont pas seulement pour l'Église, corps de Christ, réunion, institution, ils sont aussi pour l'Église domestique, l'Église qu'on vit à la maison. Et ils devraient commencer à être utilisés. Ils devraient jaillir de ce qu'on vit à la maison, qui nous donne une autorité. En fait, tout ce qu'on vit commence à la maison. Et je vais vous donner quelques paroles là-dessus. La maison, c'est le lieu où on construit notre couple, qui est quelque part l'image de Dieu. Notre unité dans le couple, elle reflète qui est Dieu. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Donc il faut cette unité dans la diversité pour refléter qui est Dieu. C'est l'image de la Trinité, quelque part. Ils sont plusieurs, mais ils sont un. Il est un. Et dans notre couple, on est une vision prophétique. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 5. Hein. C'est un grand mystère, je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ, c'est notre modèle. Et puis, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Christ. Il y a quelque chose dans la dynamique à l'intérieur de qui Dieu est, parce que Dieu est famille, qu'on est appelé à refléter sur la terre dans nos vies de famille. Ensuite, la famille, c'est là où on apprend tout au niveau des relations. Dans notre famille, on apprend à écouter, on apprend à partager, on apprend à pardonner, on apprend à se taire, on apprend à obéir, on apprend toutes sortes de choses liées aux relations. C'est là où on apprend à gérer les conflits, par exemple. Je vous donne cet exemple-là. Parce que ma femme et moi, on vient de deux arrière-plans familiaux complètement différents. Chez moi, il n'y avait jamais de conflit. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Et vous allez me dire, ouh, tu as été béni. D'un côté, oui. Puis d'un autre côté, ben, je n'avais pas de modèle. Et je suis parti du principe que les conflits, ça n'existe pas dans un couple. Ben ouais, c'est ce que la réalité, ma réalité, m'a appris. Ou alors, s'il y a des conflits, ben, on doit être au bord du divorce. Ma femme, elle vient d'une famille où c'était un peu différent. Il y avait régulièrement des conflits. Puis quand il y avait un conflit, tout le monde criait « Mais pourquoi t'as fait ci? Mais à quoi tu pensais ?» Et puis, les gens tapaient du poing sur la table. Après, ils s'expliquaient. Et puis après, ils se pardonnaient. Et puis, ils tournaient la page, puis ils continuaient. Et puis un jour, on s'est mariés. On est parti en voyage de noces en Israël. Et vous savez, il y a des choses qui sortent qu'une fois après qu'on est marié. Vous avez déjà remarqué ça? Je crois qu'on était du 3 jours en Israël et tout d'un coup, je vois ma femme arriver comme un volcan devant moi. « Mais pourquoi t'as fait ça? Mais à quoi tu pensais ?» Puis moi, j'étais là. J'étais paralysé. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et dans ma tête, ça tournait à 200 à l'heure. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un conflit? Mais non, ce n'est pas un conflit. On est mariés que depuis 3 jours. Ce n'est pas possible. C'était en dehors de mon cadre de référence. Et j'étais tétanisé. Je ne savais pas comment réagir. Puis ma femme, qui avait l'habitude d'une bonne explication dans son arrière-plan familial, ben, elle n'avait personne devant elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue encore plus fort. « Mais pourquoi tu ne réponds pas? Explique-toi un peu !» Et moi, j'étais encore plus coincé. Ben, les amis, il nous a fallu 10 ans pour apprendre à être à l'aise dans les conflits. Mais où est-ce qu'on a appris? Où est-ce qu'on a appris ça? On apprend ça dans notre famille d'origine. Comment vos parents géraient les conflits? Comment vous gérez les conflits? En fait, on n'apprend pas en étant assis autour de la table de la cuisine, puis papa nous fait un message sur la façon de gérer les conflits. Alors, le mot conflit vient du grec conflictus, etc., etc. Non. On apprend à gérer les conflits par imprégnation. On absorbe la culture familiale. Donc moi, j'aimerais vous dire une chose. Vous faites des disciples de toute façon. Que ça soit intentionnel ou non, il y a tellement de choses dans votre fonctionnement et dans les choses que vous nourrissez et que vous tolérez quelque part dans votre famille, que vous transmettez et que vous enseignez à vos enfants, pas de façon formelle, mais de façon totalement inconsciente. Mais ils absorbent. La sanctification, ça se passe à la maison. Moi, je pensais, avant d'être marié, que la sanctification, il fallait aller au culte ou au groupe de jeunes, puis il y avait un orateur qui avait l'onction de Dieu, qui prêchait avec force. Et puis j'étais touché, alors je m'avançais à l'appel, puis il priait pour moi, puis peut-être que je tremblais, ou je pleurais, ou je tombais par terre, ou Dieu me visitait, puis après je rentrais à la maison, puis j'étais plus sain qu'avant. Je pensais que ça se passait comme ça. Puis un jour, je me suis marié. Puis j'ai réalisé que c'était quand même bien plus simple d'être sain quand j'étais tout seul que quand j'étais avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre sanctification. Parce qu'il veut qu'on puisse le voir. Et sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et j'ai réalisé que la sanctification, c'est une histoire de relation. Vous savez, dans les Proverbes, je crois que c'est 28, ce verset qui nous dit « Le fer aiguise le fer ». Et l'amitié d'un homme aiguise la personnalité de son prochain. Dieu nous place à côté d'une personne qui va nous aiguiser. C'est pour ça que des fois, ma femme, elle me sort par tous les trous. Je m'excuse, je parle un peu crûment, mais qu'est-ce que je l'aime? Mais des fois, je dois laisser passer quelques minutes avant de l'aimer encore autant. parce que Dieu est fidèle pour mettre juste la bonne personne à côté de moi, qui va savoir appuyer sur les bons boutons pour faire sortir exactement les choses qu'il aimerait travailler. C'est pour ça que le couple et la famille sont au cœur de la vision de formation de disciples qu'on devrait avoir dans nos églises. Nous, on fait des réunions un peu artificielles en dehors de nos réalités, alors que Dieu, son plan, c'est d'utiliser nos réalités pour nous rendre saints. On était le jour après notre première crise en voyage de noces en Israël, à Jérusalem. On s'est dit, bon, allez, on va visiter le musée de Jérusalem. Il y avait une exposition temporaire, l'histoire du mariage dans le peuple hébreu. Première vitrine, c'était un long texte, je me suis dit, bon, on passe ou bien on lit. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire. Puis on a lu avec ma femme. En hébreu, le mot « mariage » vient d'une racine qui veut dire « sanctification ». On se dit « Ah, voilà, voilà ». Sanctification dans tous les sens, hein. Être purifié, être élagué, mais aussi être mis à part. Parce que quand je dis oui à quelqu'un, ça veut dire que je dis non à toutes les autres. Je suis sanctifié, je suis mis à part pour elle. Donc, on apprend cette dimension de sanctification au sein de la famille. L'éducation des enfants, moi j'appelle ça faire des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, mais ça ne sert à rien d'aller pavaner dans les nations faire des disciples si on néglige les trois premiers disciples que Dieu nous a donnés à la maison. Si nos propres enfants ne veulent pas être comme nous, quelle autorité on a pour faire des disciples plus largement? Ça commence à la maison. À la famille, on a un rôle sacerdotal, un rôle de prêtrise, par la prière, la lecture de la parole, l'adoration, l'intercession, je ne peux pas tout développer là, mais on est appelé à le vivre à la maison aussi. Alors nos premiers moments de louange à la maison quand nos enfants étaient petits, c'était des batailles de bannières où ils se tapaient dessus avec les drapeaux. Puis après, mon fils, il voulait que des chants de combat spirituel parce qu'il pouvait courir avec son épée en plastique. Et puis, ben voilà, ben on commence avec ce qu'on a. Mais il y a 20 ans, le Seigneur m'a dit, Guy, tu dois lire la parole à tes enfants. Donc j'ai commencé à ouvrir la Bible, puis quand mes enfants étaient tout petits, à leur lire la Bible. Alors pas le Lévitique ou bien certains livres prophétiques un peu compliqués, mais on a commencé par des histoires, pas trop longues, pour que ça soit intéressant, avec du temps, je jouais les choses, je leur posais des questions, je les intégrais dans l'histoire. Et maintenant, ça fait 20 ans que tous les jours, on lit la parole en famille, et que la parole de Dieu, elle est au cœur de notre vie de famille. Alors, il y a des moments où c'est plus vivant que d'autres. Ces temps avec mes ados, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont déjà de la peine à se lever le matin. Puis voilà que je les bassine. Et puis j'essaye de rendre ça vivant, mais des fois, il n'y a pas beaucoup de récompenses. Puis le Seigneur me dit, Guy, sois fidèle dans ce que je t'ai demandé. Et sois confiant que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Mais si tu arrêtes de semer parce que tu es découragé de la réception, ben, tu ne vas rien récolter non plus. Alors, j'essaye d'être fidèle. La famille, c'est aussi un lieu de service et de ministère, en particulier par l'accueil et l'hospitalité, en servant ensemble à l'église ou dans des activités où on peut servir tous ensemble, comme les services Pâques qu'on avait mis sur pied. C'était des choses où toutes les familles pouvaient venir ensemble et chacun à son âge trouver un service où il pouvait servir. On a démarré des camps pour que les familles apprennent à être comme des petites églises et fonctionner comme des bases missionnaires qui touchent leur famille élargie, leur quartier. On appelle ça les camps familles de foi. Il y en aura un cet été pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aller sur le site internet www.familledefoi, famille au pluriel, en un mot, familledefoi.ch. Puis là, vous aurez la présentation de ce que propose le ministère Famille de foi pour former les familles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de voir. On réalise que l'Église ne doit plus rester dans les bâtiments ou les réunions seulement, mais elle doit commencer à descendre dans notre vie du quotidien, dans nos travails, dans nos professions, dans nos quartiers et dans nos familles. Je vais terminer en... Ça va si j'ai encore 5 minutes, Catherine? Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes plus âgées au milieu de nous, puis quand je parle de ces choses avec les enfants, peut-être certains se disent ouais, « bon, ça ne me concerne plus, ça ». Ou bien « si on m'avait dit ça il y a 50 ans, ben, ça aurait été bien, mais là, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je rencontre beaucoup de personnes âgées qui apprécient leurs enfants, leurs petits-enfants, mais qui ont quelque part le cœur qui est un peu déchiré quand même, parce que leurs enfants ne suivent pas le Seigneur, leurs petits-enfants ne suivent pas le Seigneur. Puis des fois, ils n'ont pas le droit de leur parler, ils n'ont pas le droit de les emmener à l'église, ils n'ont pas le droit de leur proposer des camps. Et puis ils se sentent déchirés parce que la foi, c'est quelque chose de tellement fort pour vous. Et puis vous réalisez que vous n'arrivez pas à transmettre plus loin. Et il y a une souffrance, il y a une tristesse. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que c'est bien joli de raconter ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, quand c'est trop tard? Alors j'aimerais dire deux, trois choses par rapport à ça. Tout d'abord, c'est jamais trop tard. Il y a des gens qui se convertissent sur leur lit de mort. Peut-être vos enfants seront de ceux-là. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais baisser les bras. Il y a un verset dans la Bible, dans Éphésiens, qui dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Littéralement en grec, on est le chef-d'œuvre de Dieu. Et une auteure, quand elle écrivait au sujet de nos enfants qui étaient loin de Dieu, elle disait « Gardez-vous de juger le chef-d'œuvre de l'artiste avant qu'il ne l'ait terminé. » Dieu n'a pas fini. Et je veux vous raconter le témoignage de ce qui s'est passé dans notre famille pour que vous retrouviez espoir. Toute notre famille s'est convertie par ce jeune salutiste qui est venu habiter chez nous. Toute? Non. Sauf un petit village peuplé d'irréductibles. Non, ça c'est Astérix, c'est autre chose. Toute sauf ma sœur. Ma sœur, la deuxième de la famille, on est trois enfants. Puis ma sœur, elle avait vraiment une dimension rebelle. Elle voulait rien entendre parler de Dieu. Puis ma mère, bien sûr, à cause des insécurités, plus ma sœur repoussait, plus ma mère parlait. Et puis un jour, elle a tellement cassé les pieds à ma sœur que ma sœur a fait sa valise, puis elle allait partir. Puis ma mère s'est interposée devant elle. « Tu ne passeras pas !» Et puis elle a dit « Ma sœur, tu ne sors pas d'ici. » Puis ma sœur a dit « Mais j'en peux plus, je ne supporte plus ton Jésus et tous tes trucs de bondieuserie, j'en ai ras-le-bol !» Puis elles ont crié dans le couloir pendant une demi-heure. Moi, j'étais dans ma chambre, je priais « Seigneur !» Finalement, ma sœur est partie dans sa chambre, elle a claqué la porte, elle a pleuré. Ma mère pleurait aussi. Ma mère a été se coucher. Ma mère s'appelle Anne-Marie. Puis elle a dit « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Puis le Seigneur lui a dit « Anne-Marie, par pitié, maintenant tais-toi. Tais-toi. Ta fille, elle sait tout. Tu lui as dit déjà 50 fois. Tu lui rabâches les oreilles avec tout ça. Tais-toi et maintenant tu pries. » Donc ma mère qui voulait que sa famille soit au Seigneur, elle s'appuyait sur ce verset « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Elle a commencé à prier pour sa famille, elle a commencé à prier pour sa fille. Elle s'est retrouvée tous les lundis matins depuis bientôt 40 ans avec une dame qui aujourd'hui en a plus de 90. Tous les lundis matins, elle a prié pour ses enfants. Puis ma sœur, elle a eu un copain pas chrétien, après elle a eu un accident de moto, un camion lui a passé dessus. Un jour, elle vient à la maison, puis elle était couturière, puis elle dit « Ah, oh, j'ai une idée, je veux partir à Paris pour faire une école de styliste !» Puis nous, on vient d'un village de 300 habitants. Donc ma mère est devenue blanche, elle a dit « Oh, Paris, la grande ville, les prostituées, le crime et tout ça. » Puis le Seigneur lui a dit « Pchut, tu pries. » Elle a quand même essayé d'aider le Seigneur un petit peu. Elle a téléphoné à des amis de jeunesse en mission en disant « Écoutez, il y a ma fille qui vient habiter Paris pendant une année. Est-ce que vous seriez d'accord de l'inviter de temps en temps ? Comme ça, peut-être que... » Ça, c'est les mamans. Hein. Souvent, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour aider le Seigneur. Mais maman, relisez le livre de la Genèse et regardez toutes les situations où des mamans ont essayé d'aider le Seigneur. Qu'est-ce que ça a donné ? Bon, ma maman, elle a prié. Après l'année à Paris, où il ne s'est rien passé, de négatif, mais aussi pas de conversion, ma sœur est revenue, elle a vu une annonce dans le journal. Une mission, ce n'était pas marqué que c'était une mission chrétienne, mais qui cherchait une couturière pour l'envoyer au Tchad, dans un village, pour enseigner la couture aux femmes, pour qu'elles apprennent un savoir-faire pour avoir un petit revenu. Puis elle s'est dit, oh l'Afrique, trop génial, ça je veux y aller. C'était une aventurière. Et puis elle est partie pour le Tchad. Ma mère, quand elle a entendu ça, oh, « Le Tchad, l'Afrique, les guerres, le sida, le... » Il semble des fois il y a des mamans qui sont câblées pour imaginer le pire. Je sais pas. Toujours est-il que ma maman n'a rien dit. Elle a prié, elle a apporté toutes ses angoisses au Seigneur. Et ma sœur est partie pour le Tchad, dans un petit village. Vous n'allez pas me croire, mais après 3 semaines, elle était convertie et baptisée. Pourquoi ? Parce qu'elle est arrivée là-bas, et en fait, tout le village était chrétien. Les seules distractions, c'était le culte du dimanche matin, qui durait en général 6 heures, c'était l'étude biblique du lundi soir, c'était le groupe de dames du mardi soir, c'était la réunion de prière du mercredi soir, c'était le groupe de jeûne du vendredi soir. Ben voilà, ma sœur, elle a été embarquée dans cette culture. Et je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles elle s'est convertie. La première, c'est que maman n'était pas là. Il n'y avait pas cette présence derrière, avec un peu toutes ces formes de pression, ces petites paroles qui piquent, parce qu'il y a besoin d'exprimer notre souci et puis notre désir pour elle. Et je crois que le fait que ça ne soit pas là, ça a comme libéré quelque chose. Mais la deuxième chose, c'est que maman était là. Parce que dans la prière, elle n'a pas lâché. Et elle a tenu ferme à ce que Dieu lui disait, en s'appuyant sur les promesses de Dieu plutôt que ce que sur ses yeux pouvaient voir. Et peut-être quand vous voyez vos enfants, vos yeux vous disent « ils ne veulent rien de Dieu, j'ai échoué ou je ne sais pas quoi d'autre ». Appuyez-vous sur les promesses de Dieu et reprenez votre place dans l'intercession pour vos enfants. Parce qu'il n'y a personne qui a plus de poids devant le Seigneur qu'un père, une mère qui prie pour ses enfants. Et je vous encourage. Ce que je suis en train de vous dire sur la famille, ce n'est pas juste pour les jeunes, c'est aussi pour vous. Et pour les familles des jeunes, priez pour elles aussi. C'est dur d'être parent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de confusion dans la formation et les jeunes parents ne savent plus tellement sur quel pied danser avec toutes les théories contradictoires qu'on a sur l'éducation. Priez pour les jeunes familles. Partagez vos échecs ou vos erreurs. Soyez humble, soyez vrai, soyez authentique pour que les jeunes apprennent de vous. Vous pouvez être une bénédiction dans votre église. Et même dans les choses les plus difficiles que vous avez pu vivre, ça peut devenir une source de vie pour les générations suivantes. Et j'aimerais vous encourager. L'ennemi, j'ai cette image de l'ennemi qui est sur un ring avec vous, puis qui vous boxe, puis là vous êtes un peu dans un coin, puis vous êtes un peu chaos par rapport à votre famille. Mais le Seigneur, il veut faire de vous des bâtons. Et il ne veut pas vous laisser vous faire assommer. Il va vous donner la force pour que là au milieu, vous puissiez vous relever et puis dire « Non, je suis là. Je suis là et je vais prendre ma place. » Et les promesses de Dieu, elles sont toujours valables pour vos enfants et vos petits-enfants. On va s'arrêter là, j'ai assez parlé. Et j'espère avoir en même temps levé l'attente et la vision de ce que vous pouvez vivre dans vos familles. Montrer comment la famille est liée à ce qu'on vit dans le reste de l'Église, puis comment c'est le lieu de préparation. Mais en même temps, redonner l'espérance à ceux qui vivent des choses qui sont difficiles ou qui ont vécu des grosses déceptions dans leur famille. Je pourrais dire beaucoup plus là-dessus, mais ce n'est pas le but que je parle trop longtemps non plus. Et j'aimerais simplement prier pour vous, si vous êtes d'accord à la fin. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos familles, mais je propose simplement, en toute honnêteté, vulnérabilité, un petit peu dans l'état d'esprit que j'ai décrit ce soir. Si vous dites, ben moi, je réalise que j'ai besoin de prière dans ce que tu as partagé ce soir. Peut-être c'est des points qui sont tout différents. Peut-être certains, c'est parce que vous avez des jeunes enfants, puis vous êtes un peu débordés. Des autres, c'est peut-être que vous avez des arrière-petits-enfants, puis vous souffrez de les voir tellement désintéressés de Dieu. Mais là où vous en êtes, j'aimerais prier que le Seigneur vienne vous rencontrer, vienne vous relever, vienne vous donner son espérance et puis vienne vous donner des clés pour pouvoir laisser Jésus entrer dans votre famille. Et puis des fois, quand notre famille ne va pas bien, on n'a plus trop envie que Jésus vienne. C'est comme quand on a notre maison qui est tout en désordre, puis quelqu'un tape à la porte. On dit « Oh, attends, il faut que je rentre !» Puis on fait entrer la personne quand même, mais on se dit « Oh, mais j'aurais préféré qu'il vienne après le ménage ou comme ça. » Jésus, il s'en fiche du ménage. Il vient dans votre famille comme elle est. Comme il est venu à Noël dans une écurie qui puait la bouse de vache. Ça sentait mauvais. Mais Jésus, c'est là qu'il aime venir. Et si tu as l'impression que dans ta famille, ça sent mauvais, ce n'est pas un problème pour lui. Prions. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de toute espérance, tu nous dis dans la Bible. Et il n'y a rien qui est étonnant de ta part. Et tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors ce soir, on parle de la famille, puis c'est un sujet délicat, je sais, Seigneur. Et des fois, j'ai de la peine à amener ce message parce que je suis aussi conscient de mes propres incohérences, de mes propres difficultés dans ma vie de famille. Mais je sais que tu es le Dieu qui nous donne une perspective. Et tu ne nous donnes pas une vision d'une famille parfaite, mais tu nous donnes la vision d'une famille où tu habites à l'intérieur. Et puis tu bâtis la maison avec nous. Autrement, on bâtit en vain. Et j'aimerais te prier pour les gens de cette communauté. Et si vous voulez vous approprier cette prière, je vous propose simplement de vous lever à votre place parce que vous réalisez que vous en avez besoin dans un domaine ou un autre pour votre famille. J'aimerais t'apporter les gens de cette communauté, Seigneur. J'aimerais les bénir en ton nom. Dans leur génération, Seigneur, quelle que soit leur génération, si c'est des plus âgés qui ont vécu des choses douloureuses, des échecs, des divorces, des déceptions, des choses qui les rongent peut-être à l'intérieur en se disant « mais si j'avais pas dit ça, si j'avais pas fait ça ». Seigneur, j'aimerais prier que ta grâce, elle coule et que tu viennes les rencontrer comme un père parce qu'ils font partie de ta famille aussi et ils peuvent donner que ce qu'ils reçoivent de toi. Alors montre-leur comme tu es ce père du fils prodigue qui court à leur rencontre et puis qui se jette dans leurs bras, qui tue le veau gras, qui amène des sandales pour leurs pieds, un anneau pour son nez, qui fait la fête. Seigneur, tu viens habiter dans leur maison, là où elle est, dans leur famille, là où elle est. Il y a peut-être des gens qui sont plus jeunes et puis qui se demandent comment ils vont faire pour leur propre vie de famille, avec leurs propres enfants, qui ont des questions toutes basiques d'éducation. Et j'aimerais te demander que tu viennes les rejoindre, là aussi. Ma prière, Seigneur, c'est que tu positionnes chacun dans cette communauté pour que le ministère, pour que le royaume jaillisse de l'intérieur vers l'extérieur. Et le royaume, il ne va pas jaillir de famille parfaite, il va jaillir de familles authentiques qui t'accueillent comme elles sont. Alors, Seigneur, je prie pour une nouvelle dimension de ta présence. Je prie pour une guérison aussi, pour tous ceux qui ont un cœur brisé. Et au nom de Jésus, je prends autorité sur tout sentiment d'échec, en disant, de toute façon, je suis raté. J'ai tout raté. Ma famille est ratée. Mon mariage est raté. Je veux briser cela au nom de Jésus. Il n'y a personne qui est un échec, Seigneur. On vit des échecs, mais avec toi, ces échecs peuvent se transformer en source de vie. Et j'aimerais te demander que tu positionnes les cœurs maintenant pour accueillir ton œuvre de rédemption. Et que tu viennes racheter ces échecs apparents pour en faire des choses qui vont bénir dans cette communauté, dans le voisinage, dans la famille élargie, à cause de notre positionnement et du fait qu'on te laisse visiter ces endroits douloureux. Seigneur, je prie que tu redonnes courage et espérance à ceux qui ont baissé les bras, à ceux qui ont perdu courage. Tu fais renaître dans leur cœur le courage, la vision pour leur famille. Tu les aides à reprendre place sur la brèche dans l'intercession et à se confier dans tes promesses, plus que dans ce qu'ils voient, sachant que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je bénis cette communauté, je te demande une protection sur les familles et je te demande que ce mois d'enseignement sur ce thème ne soit pas juste un thème, qu'on passe, puis après on passe au suivant, mais que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet, et qu'il y ait une œuvre de fondement et de transformation profonde dans les familles de l'Église, et que cette Église soit bâtie sur la solidité de ses familles, et pas juste sur la solidité de ses réunions. Seigneur, bénis les familles de cette communauté. Au nom de Jésus, j'aimerais prier cette bénédiction de nombre 6. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face, sa présence sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face, sa présence vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez bénis. Si jamais je me tiens par ici à la fin, si vous voulez voir un peu les livres, et puis si vous voulez discuter ou prier, je suis volontiers à disposition. Merci beaucoup.